Frères et sœurs bien-aimés, en ce troisième dimanche du carême, nous quittons le désert où tout a commencé. Nous quittons la haute montagne où le Seigneur dimanche dernier fut transfiguré pour monter avec le Seigneur à Jérusalem. Si dimanche dernier, dans le mystère de la transfiguration, la liturgie de l'Église nous invitait à entreapercevoir un quelque chose annonçant la résurrection du Seigneur, dans l'épisode de la purification du Temple, voilà que le Seigneur annonce sa passion sous les traits mystérieux du Temple de Jérusalem contenant la présence même de Dieu. Pour méditer cette page d'Évangile, il nous faut revenir sur l'Évangile de Saint Jean dans laquelle elle prend place au second chapitre. Cet Évangile, selon Saint Jean, s'est ouvert par un prologue nous renvoyant à la Genèse. Au commencement était Dieu, au commencement était le Verbe, il était auprès de Dieu, il était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Puis Saint Jean ouvre son évangile par une semaine inaugurale, reprenant les jours de la création. Au premier jour, il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et alors que Jésus paraît sur les bords du Jourdain, Jean-Baptiste rend son témoignage. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et le Seigneur reçoit le baptême de Jean, il prend sur lui tous nos péchés. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le lendemain, voilà que le Seigneur appelle à sa suite les 12 apôtres. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Puis le troisième jour. Le troisième jour étant celui de sa résurrection, nous sommes à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et voilà que le Seigneur va manifester sa gloire. Il va changer l'eau en vin, anticipant en cela sa résurrection, anticipant en cela le mémorial de sa passion. L'eau n'est plus changée en vin, mais le vin est changé en son sang. Son sang qui est le principe de vie, lui qui nous donne la vie éternelle. Et au lendemain de ce troisième jour, nous voici à Jérusalem, où le Seigneur purifie le temple. Nous avons déjà là une clé de lecture pour méditer notre évangile. Si l'épisode de Cana anticipe le sang versé par le Christ, voilà que la purification qui lui fait suite annonce la destruction du corps du Seigneur, sa mort plongée dans l'obscurité du tombeau. Mais comme le Seigneur l'annonce aux Juifs, vous détruirez ce sanctuaire. Mais trois jours après, je le relèverai. C'est déjà l'annonce de sa mort et de sa résurrection. Pour approfondir davantage notre méditation, il nous faut savoir ce qu'est le Temple de Jérusalem. Le Temple de Jérusalem n'est pas un bâtiment cultuel parmi tant d'autres. Si les villes d'Israël ont chacune, voire plusieurs, synagogues pour entendre les Saintes Écritures, il n'y a qu'un seul temple, car il n'y a qu'un seul Dieu, et ce temple se trouve à Jérusalem. Le temple, ce n'est pas un bâtiment. Le bâtiment n'est qu'une enceinte qui renferme dans le Saint des Saints, certes, l'Arche d'Alliance contenant les 10 commandements que nous avons réentendus dans la première lecture, mais dans le Saint des Saints, il s'agit de la présence même de Dieu qui réside là, et nulle autre part ailleurs. Lorsque le juif pieux se rend au temple de Jérusalem, il ne va pas prier Dieu, il va se mettre en présence de Dieu qui est là, dans le temple. Et aujourd'hui encore, les juifs, en se rendant au mur des Lamentations, sont auprès de ces pierres comme au plus près de cette présence de Dieu qui a disparu. En effet, le Seigneur offre sa vie aux environs de l'an 33. L'apôtre Pierre, offre sa vie à Rome en l'an 64. C'est l'époque où saint Marc nous rédige son évangile. Mais que se passe-t-il de décisif en l'an 70 ? Voilà que le temple est détruit, que la ville de Jérusalem est prise par les autorités romaines et que depuis ce jour, le temple n'a jamais été rebâti. Dieu n'est plus dans le temple, mais où est-il ? Il est présent dans son Église, c'est le corps du Christ que nous formons, dont le Christ lui-même est la tête. Venons-en à présent, avec ces clés de lecture, au texte de l'Évangile. Jésus, en entrant dans le temple, voit dans le parvis les vendeurs. Il y a une raison pour laquelle les vendeurs sont, non pas dans le temple, mais devraient être aux abords du temple. Vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas toujours facile de se déplacer avec un bœuf, avec une brebis ou avec des colombes, surtout quand on vient de la région de Tyr et de Sidon ou même de Nazareth. Ainsi donc, on avait pris l'habitude d'emporter une somme d'argent, c'est quand même plus commode à transporter, d'acheter l'offrande aux portes du temple pour ensuite aller l'offrir. Cependant, on veut toujours que les commerçants soient le mieux placés et on les avait fait entrer dans un parvis qui était réservé à tous ceux qui n'étaient pas juifs. La maison de Dieu est ouverte déjà à toutes les nations. Ceux qui n'étaient pas juifs et qui voulaient venir adorer le Dieu unique avaient une place dans la maison de Dieu et voilà que cette place a été prise par les vendeurs de bœufs, de brebis, de colombes et les tables des changeurs. Pourquoi faut-il changer l'argent ? Parce que l'argent est romain et que cet argent est idolâtre puisque la figure de l'empereur s'y trouve et qu'il se revendique comme étant lui-même un demi-dieu. Il fallait donc changer cet argent en un argent cultuel du temple pour que l'offrande soit parfaitement pure. Voilà que le Seigneur, en entrant, prend des cordes, en fait un fouet, et saint Jean précise, non sans humour, qu'il chasse aussi les animaux, ce qui veut dire que le fouet du Seigneur chasse d'abord tous ceux qui se trouvent dans l'enceinte du temple. Voilà que les bœufs, les brebis partent, voilà qu'il demande aux colombes de partir, renversant les tables des changeurs. Le Seigneur est habité par l'amour de Dieu. « L'amour de ta maison causera mon tourment ». En grec, le mot « amour », c'est le mot « zélos ». C'est le mot qui nous dit que l'eau bout. Le Seigneur est bouillant de cet amour de Dieu qui est un amour jaloux. Il ne veut pas que l'on fasse de la maison de Dieu une maison de commerce. Il ne veut pas que l'on prenne la place des nations païennes pour lesquelles le Seigneur vient également s'offrir. Pourtant, saint Jean l'évangéliste veut aller encore plus loin dans la mystique de ce qu'il a vécu auprès du Seigneur. Je vous ai dit, Jean-Baptiste a rendu son témoignage. Le Seigneur est l'agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde. Dans l'évangile selon saint Jean, si le Seigneur chasse les bœufs, les brebis, les colombes et renverse les tables des changeurs, c'est parce que vient le temps où il n'y aura plus besoin d'offrir ses offrandes. Il est lui-même l'offrande parfaite, une offrande qui ne vient pas de la main des hommes, une offrande qui est envoyée par Dieu. Il est l'agneau qui va être sacrifié sur l'autel, l'autel étant la croix, l'autel étant son propre corps. Le Seigneur dans son sacrifice est à la fois le prêtre, l'autel et la victime. Il chasse tous ses vendeurs car l'heure vient où le Seigneur va offrir son sacrifice. Ainsi donc, le temple qui est le lieu même où réside Dieu sera détruit par la mort du Christ, mais 3 jours après, il le relèvera. Saint Jean, qui lui écrit son évangile en l'an 90, c'est-à-dire à une époque où le temple a été effectivement détruit, fait bien dire au Seigneur, aux Juifs, « Vous détruirez ce temple, je le relèverai ». Au sens littéral, effectivement, les autorités juives ont elles-mêmes détruit le temple lorsqu'elles ont bien compris que la ville allait être détruite après un siège pénible. Elles préfèrent détruire elles-mêmes le temple plutôt que celui-ci ne soit profané par les légions romaines. Le Seigneur ne se trompe pas. Vous détruirez ce temple, je le relèverai. Mais ce temple n'est pas simplement le temple de pierre. Lorsqu'il dit aux Juifs, vous détruirez ce temple, sous-entendu, vous, membres du peuple élu, fils privilégiés de Dieu, vous allez détruire la présence de Dieu, vous allez détruire le temple, c'est-à-dire vous allez détruire mon corps. Mais ce corps, le Seigneur nous dit, c'est le sanctuaire de son corps, parce que son corps abrite non seulement une âme, mais tout autant sa divinité. Vous détruirez le temple, je le relèverai, parce que je suis Dieu, je me relèverai d'entre les morts. Le Seigneur Jésus domine complètement cette page d'évangile. Personne ne vient lui dire qu'il exagère. Personne ne vient s'entreposer. Aucune autorité, et il y a des gardes dans le temple. Personne ne remet en cause l'autorité du Seigneur. On vient lui demander simplement quel signe donne-t-il à cet acte prophétique. Et le Seigneur annonce le mystère de sa passion, et nous entendrons dans les récits de la passion, lorsqu'on cherchera à accuser Jésus de faux témoignages, cette même prophétie. Il a dit qu'il détruirait le temple et qu'en 3 jours il le relèverait. Ils ne comprirent pas qu'il parlait du temple, de son corps. Eh bien, frères et sœurs, nous aussi, nous avons ce sanctuaire de notre corps qui abrite notre âme éternelle. À la suite du Seigneur, notre corps sera détruit, comme le Seigneur, parfois dans la souffrance et dans les larmes. Mais voilà que le Seigneur nous dit, je le relèverai, je vous relèverai, vous ressusciterez à ma suite, ainsi soit-il.